sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes hein, comme ras-le-bol, la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, l'éducation des jeunes, en sont totalement
irresponsables. Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Tous, bienvenue dans l'émission du Canu Info du lundi. Aujourd'hui, on va vous parler d'abord de l'international avec les Suisses qui disent oui à la surveillance électronique par les services secrets. On va vous parler ensuite du Gabon avec Ali Bongo et toute la controverse qui s'ensuit. On va vous parler aussi dans le national des questions des droits des transsexuels. On va vous parler aussi d'une mutinerie qui s'est passée à la prison de Valence. On va vous parler de François Hollande à Calais. Et on va vous parler de la grève dans les hôpitaux. Au niveau local, on va vous parler aussi de la sécurité dans les établissements scolaires. Parce que récemment, il y a eu un flic dans une maternelle pour surveiller les petits-enfants. On va vous parler aussi de la visite du numéro 3 chinois et du président de l'Assemblée à Lyon. On va vous parler aussi de ce qui s'est passé ce week-end à Vaux-en-Velin, avec notamment le quartier Mont-Gerbier et Mont-Cindre en lutte contre des expulsions. Et puis enfin, on va vous faire un petit rappel que des nuits debout vont reprendre à Lyon pour ceux que ça intéresse. On va vous parler aussi plus spécifiquement de la question de l'immigration, avec un focus sur la Hongrie. Et on va vous parler aussi du collectif des étudiants étrangers sans papier et solidaires de Lyon et de tout ce qui s'est passé récemment avec eux. À la fin, on vous fera l'agenda de la semaine. Voilà.
Alors, pour commencer, donc à l'international, une amie de nos amis suisses qui, dans leur folie collective, continue en fait à s'auto-fliquer et à s'auto-enfermer dans une prison, cette fois pas physique, mais numérique. Donc, il y a eu un vote, donc un référendum dans ce qu'on appelle la plus belle démocratie européenne, un référendum local, enfin national, qui a donné l'autorisation aux services secrets, dont de pratiquer une surveillance massive du net et des communications téléphoniques, des activités internet, mais aussi même du papier. Donc selon les résultats, il y a quand même 2/3 des électeurs sur seulement, bon, il faut relativiser seulement 43% de votants qui ont été d'accord pour cette loi. Cette loi était en fait, ce vote est lié à une loi votée en 2015. Et c'est le parti pirate et les Verts en fait qui ont demandé ce référendum après avoir obtenu plus de 50 000 signatures pour demander son abrogation. Donc cette loi va permettre aux services secrets, donc sous certaines conditions, mais qui peuvent être comme d'habitude très larges et très vite déformées, surveiller de façon préventive les envois postaux et les communications téléphoniques des particuliers, ainsi que les activités qu'ils déploient sur Internet, s'infiltrer dans des réseaux informatiques et procéder à des fouilles de locaux, de véhicules ou de bagages notamment, et tout cela de façon préventive. Donc ils pourront aussi perturber l'accès aux informations sur les réseaux informatiques, condition que ces systèmes soient utilisés dans les attaques visant des infrastructures critiques. Les autorités suisses sont parvenues à convaincre les électeurs que seulement une dizaine de cas par an seraient concernés par la nouvelle loi. La Suisse, selon eux, la Suisse n'est pas une cible, mais elle pourrait servir de base arrière aux terroristes. Donc il faut voir qu'en même temps, en fait, les Suisses ont voté à plus de 60%, ils ont refusé une augmentation de leur retraite, et en même temps, à plus de 63%, une initiative populaire défendue par les Verts qui demandait une réduction de la consommation des ressources naturelles. Donc, au vu de ces dernières nouvelles, amis suisses, réveillez-vous.
Et on va vous parler maintenant de Omar Ali Bongo. Ouais, voilà, ça y est. On ne sait plus qui est qui. Donc, en fait, on va vous parler de la situation au Gabon. Pour le coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 31 août, il y avait une annonce des résultats provisoires, en fait, des élections. Et on donnait Ali Bongo et Jinping plus ou moins équivalents dans les votes qui avaient eu lieu. Et ça avait créé pas mal d'émeutes à Libreville et dans la province, etc. Et en fait, dans la nuit de vendredi 23 au samedi 24, Ali Bongo a été validé par la Cour constitutionnelle du Gabon. Donc, cette fois-ci, pas de joie, pas d'émeute, absolument rien. Ça n'a pas trop bougé dans la ville, mais il faut dire que, en tout cas pour la capitale, on sait que la ville elle est quadrillée par les forces de l'ordre, que jusqu'à présent il y a eu une répression violente. Quelques amis nous ont fait part du fait qu'il y avait eu quand même des gens assassinés. Le 13-09, j'ai un ami qui expliquait en gros qu'il y avait eu une sorte de couvre-feu du net. Donc c'était impossible de communiquer quasiment dans les jours précédents. Et puis le 20 septembre, en fait, il a marqué, alors bon, sur son réseau social Facebook, qui peut parfois être utile pour communiquer de l'information assez rapidement quand on y a accès, il disait tout simplement, et c'est très gabonais, vous allez voir, « Lorsqu'il y a des morts, on ne peut plus discuter sereinement. Et pire, lorsqu'il y a une négation de la réalité, l'orgueil du poisson frit et le... » Et le quoi ? Et le régime du faux savant, savamment construit et répété, nous condamne. Voilà pour les infos du Gabon.
Alors, concernant l'information nationale et le droit des personnes transsexuelles, l'Assemblée a voté en juillet dernier un amendement au projet de loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle. Donc, c'était une réforme judiciaire adoptée par l'Assemblée nationale en mai. Et celle-ci était supposée intégrer des actions visant à lutter contre des discriminations. Et donc cet amendement aurait permis de faciliter le changement d'état civil des personnes trans sans devoir obligatoirement passer par un changement chirurgical de sexe ou suivre un traitement hormonal. En effet, depuis les années 90, la France traînait des pieds à prendre en compte cette discrimination, allant à l'encontre de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la semaine dernière, la commission des lois, présidée par Philippe Bas, qui fait partie des Républicains, faisait marche arrière et remettait sur la table le critère médical comme obligatoire à tout changement de genre sur l'état civil des personnes trans. Cette marche arrière bafoue le droit de chacun à l'autodétermination.
Donc également, on a reçu une communication préfectorale qui fait état d'une mutinerie à Valence. Donc mutinerie, c'est un terme militaire normalement, et là c'est plutôt en fait des prisonniers qui essayent de s'exprimer, de se révolter. Et donc des détenus du centre pénitentiaire de Valence ont refusé hier de regagner leur cellule après avoir dérobé un jeu de clés à un gardien et tenté de mettre le feu à des matelas. Donc ça c'est selon le préfet de la Drôme. Donc il y a deux surveillants qui ont été blessés, dont un seul à l'hôpital, et trois autres qui ont été très choqués. Donc on nous précise qu'il n'y a eu aucune précision sur le nombre de prisonniers qui ont rejoint les détenus. Urvoas, le ministre de l'Injustice, salue l'action des personnels pénitentiaires qui ont confiné l'incident vers 22h. Bon, rien de grave, mais on en parle un peu quand même, notamment parce qu'il y a deux étages de la tôle qui ont été dégradés. Donc le principal syndicat, SPS, ils sont très contents d'être salués, ce qui ne les empêche pas quand même de demander à la fois plus d'effectifs et des sanctions exemplaires pour les auteurs des troubles. Donc pas d'infos diables, rien du côté de ce que les prisonniers vivent, de ce qu'ils pensent, de ce pourquoi ils ont agi de cette manière. Il faut savoir que la répression va être terrible. Donc ces dernières semaines, en lien avec tout ça, il y a eu beaucoup de troubles dans les prisons françaises. À la prison des Tons, par exemple, en Savoie, avec départ de feu également le 7 et 8 septembre. Et aussi à Vivonne, près de Poitiers, le 12 septembre, avec là, carrément, tout un bâtiment qui a cramé. Donc, du feu. Pourquoi du feu ? Bah, peut-être pour que les gens ils puissent se remémorer ce bon vieux proverbe, à savoir, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, en effet, c'est quasiment impossible de savoir ce qui se passe dans nos tôles. On n'entend jamais les prisonniers s'exprimer. Et donc je pense qu'ils essaient de nous alerter à la fois en mettant le feu, parce que ça se voit de loin. Également, c'est à mettre en lien avec les grandes grèves qu'il y a eu autour du 10 septembre aux États-Unis, avec une sacrée organisation des détenus qui ont réussi à coordonner un mouvement de grève dans plus de 20 États. Donc la date, elle n'avait pas été choisie au hasard, puisque c'était le triste anniversaire de la révolte de la prison d'Attica, le 9 septembre 71, qui avait été maté 4 jours après dans le sang. Donc les prisons françaises se révoltent aujourd'hui, hier aussi, demain sûrement. Donc on est solidaires avec eux, bon courage les gars. Et les filles.
Après les prisons fermées, on a aussi les prisons à ciel ouvert. Donc François Hollande s'est baladé dans le nord de la France et allait faire un tour à Calais. Il est allé à Calais, mais il n'est pas allé jusque dans la jungle, qui était pourtant pas très loin. Il y allait notamment et majoritairement pour inaugurer en fait un nouveau projet de port de plus de 650 millions d'euros, donc qui permettra de doubler la capacité actuelle du premier port français. Il a quand même profité, quand même, vu que la campagne électorale, enfin bat son plein, démarre, mais bientôt bat son plein, pour se positionner et lancer une énième promesse en fait de fermeture de la jungle et mettre en place une organisation pour s'occuper des milliers de migrants qui vivent et qui croupissent en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Donc le chef de l'État donc a promis en fait de démanteler cette jungle et de revenir d'ici la fin de l'année une fois que l'ensemble du camp s'en serait déconstruit et les personnes déplacées dans des véritables centres de traitement. En face, on a évidemment la droite et l'extrême droite en fait qui a agité le chiffon de mini cadets ou de mini campements. Donc cette nouvelle lobby de la droite et de nouveaux partis des Républicains qui ont peur que, alors que eux-mêmes à l'époque demandaient et ont essayé de démanteler Calais, refusent maintenant qu'ils le soient, ils ont peur que en France et dans toute la France, en fait, des mini Calais avec des mini camps de réfugiés et s'installent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau local, en fait, si ce genre de réaction de la part des Républicains est maintenant mauvais courant, de façon extrêmement locale, on a à Chambon-sur-Lignon, dont la majorité du conseil municipal, tout comme les élus de l'opposition, ont déclaré leur volonté d'accueillir des réfugiés, et notamment ceux justement issus de Calais. Madame la maire de cette petite commune auvergnate, Eliane Vauquier, qui est donc maire MIR du village, mais aussi la maire MERE de notre cher et grand président de la région.
Salut maman.
quant à elle, suit les positions de son fils, qui refuse en fait toute forme d'accueil de moins de personnes immigrées, encore plus de ceux qu'elle est dans la région.
Grève dans les hôpitaux ce lundi. Donc deux des syndicats, des intersyndicats des médecins hospitaliers ont appelé à faire la grève, donc Avenir Hospitalier et la Confédération des praticiens des hôpitaux. Ils ont fait cet appel suite à un mouvement lancé par les anesthésistes. Donc ils dénoncent tous des conditions de travail difficiles et notamment un temps de travail trop élevé. C'est-à-dire qu'alors que les médecins en hôpital ne devraient pas dépasser les 48 heures par semaine, ils sont en réalité plus proches des 65 heures hebdomadaires. Donc l'hôpital public est de moins en moins attractif pour les praticiens qui se tournent de plus en plus vers le privé. Donc 30% des places dans les hôpitaux, des places des praticiens sont vacantes. On ne sait pas encore à l'heure actuelle à quel point la grève a été suivie. Les syndicats annonçaient 80% de suivi pour les anesthésistes et 20 à 30% pour les autres praticiens. Près de Lyon, on sait que les hôpitaux de Fezin ont bien suivi cette grève. Une nouvelle grève est prévue le 12 octobre avec cette fois l'appel de 5 intersyndicales.
Donc plus localement, on a le plaisir d'accueillir le remake d'une super production américaine avec Arnold Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle 2. Donc ça se passe à Aigrefeuille de Nice et on a le plaisir d'avoir un policier de la Mumu qui surveille les enfants à la cantine. Donc avec son sifflet, tout ça, son petit uniforme. Donc ils n'ont pas tous fini leur assiette. Mais sinon, il n'y en a aucun qui est mort, donc ça veut dire qu'il a bien fait son boulot quand même. Donc ça intervient suite aux attentats et aux délires sécuritaires de notre État, à des grands travaux de sécurisation. Donc la liste pour les établissements scolaires, c'est le rehaussement des clôtures, des portails, donc faire en sorte que les établissements scolaires soient très sécurisés avec des murs, des grilles pointues avec du fer, des barbelés. On remplace les interphones par des visiophones, donc ça ils ont peut-être un pote qui est dans le biz. Et il y a une enveloppe pour Lyon qui a été de 600 000 euros, en sachant qu'apparemment 180 000 ont été dépensés, notamment pour la mise en classe de Vigic et autres tintouins. Alors, il y a également, depuis la rentrée, de grands appels à procéder à des exercices dans tous les établissements, des exercices attentats. Donc, on arrête les cours, on met tous les élèves dans un coin et on leur explique comment se cacher si jamais ils se font attaquer. Donc, on fait de la prévention également pour les parents, pour les élèves, pour les enseignants. Attention, on va nous attaquer. Et ils en remettent une couche. Donc, Colomb, pour aider le bâtiment, il aime bien faire ça. Hein. Il fait peindre en jaune les 10 mètres devant l'entrée de chaque établissement. Et il y a un arrêté. Donc pour mieux nous protéger, pour mieux protéger nos enfants, qui interdit dans un rayon de 10 mètres, justement, autour de l'entrée principale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf pour Noël, le non de se garer, quoi. C'est interdit de se garer devant les écoles. Donc il sera considéré, non pas comme un attentat terroriste, hein, mais comme un stationnement gênant, et ça sera mis en fourrière. Donc la direction de la voirie et de la métropole, elle a commencé à aménager les abords des bahuts, des écoles. Il y a des diagnostics, il y a une signalétique, un marquage, et ça sera fini avant le premier trimestre. Donc super, bah voilà, on est super contents, on s'entraîne quoi.
On a eu aussi hier le plaisir et la surprise d'un nouvel invité. Donc le numéro 3 chinois est en visite officielle à Lyon. Donc le monsieur
Dijiang.
Merci pour la bonne prononciation. Évitez de dire trop de conneries quand même. Donc a visité le nouvel institut franco-chinois à Saint-Irénée dans le 5e. Donc cet institut, donc un institut culturel en fait, qui a pour but la promotion l'art contemporain, le cinéma et la gastronomie chinoise en France, et donc notamment à Lyon, à travers l'organisation d'événements et d'expositions tout au long de l'année. Donc ce nouveau bâtiment a pour but en fait, de continuer la politique d'expansion diplomatique et culturelle et politique de la Chine, qui en fait, est évidemment en lien avec l'économie locale, a amené le soir à, donc ce même numéro 3 du gouvernement, était l'invité d'honneur d'un dîner officiel à la mairie de Lyon, qui a réuni plus d'une centaine de convives, et notamment en fait, beaucoup de représentants d'institutions culturelles, mais surtout de sociétés françaises implantées sur le territoire chinois. Donc c'est le développement en fait de la vente de la France à la Chine et du développement de la Chine en France, avec notamment Rothia qui a été racheté en fait par un fonds d'investissement chinois, la Banque de Chine qui s'est implantée.
Et Blue Star, le fonds d'investissement qui a racheté Rodia. Ça a été le plus grand investissement en 2007. Donc surtout ça intervient dans une logique... Il y a une réorientation de la bourgeoisie internationale qui, vu que les Chinois s'organisent, se rendent bien compte que ça ne va pas être possible d'en faire des esclaves pendant des millions d'années non plus. Et vu qu'ils étaient tout à l'export, eh bien, on décide de repositionner un peu tout ça. Et bah voilà, hein, ça va être la bonne bouffe. On va se faire plaisir entre bourgeois du monde entier. Donc ça fait super marrer de voir quand même qu'ils promeuvent à la fois l'art contemporain, en sachant que tous leurs artistes soit ils se font tuer, soit ils se font enfermer, soit ils sont obligés d'exercer ailleurs. Le cinéma, bon bah c'est des artistes, hein, donc c'est la même. Et surtout la gastronomie chinoise, bon, ça fera plaisir aux Français de savoir que la gastronomie chinoise, concrètement, bah, quand on demande aux Chinois « c'est quoi votre rêve dans la vie ?», il n'y en a plus la moitié qui répondent « mettre une aile de poulet dans la soupe ». Donc, non mais c'est... C'est un vrai sondage. Donc chinois du monde entier, unissez-vous.
Chinois et français, autour de la nourriture, unissez-vous.
Ils ont creusé un trou quand même ensemble.
Et alors à Vaux-en-Velin, qu'est-ce qui se passe?
Alors Vaux-en-Velin, samedi dernier, il y a eu un rassemblement qui avait un double objectif, à la fois soutenir le collectif précaire et privé d'emploi qui est expulsé, et également sensibiliser les différentes populations aux projets de rénovation urbaine qui ont lieu dans toute la France, mais particulièrement à Vaux-en-Velin, puisque à travers la grande école d'architecture, c'est tout un modèle qui est promu et qui se fait les dents avec le plus grand projet français d'aménagement et de rénovation urbaine actuellement. Donc il y avait un peu de monde, des militants historiques, et ça s'est fait dans la bonne ambiance. Mercredi, il y a un nouveau rassemblement qui vise à informer, toujours, pour essayer de mobiliser. Et ça a débouché sur la prise de décision d'organiser pour la région lyonnaise, et évidemment pour ceux qui étaient motivés, la journée de soutien à Notre-Dame-des-Landes, qui aura lieu le 8 octobre, et bien à Vaux, pour manifester justement contre des décideurs identiques à Nantes, à Vaux, mais aussi à Paname, à Strasbourg, où c'est que vous voulez. Et donc le 8 octobre, voilà, c'est ce qui a été retenu, une grande journée lyonnaise de soutien à tous ceux qui luttent contre l'État, contre le capitalisme et la production des individus qu'ils essayent de mettre en place à travers leur structure urbaine. Et voilà. Donc tous à Vaux-en-Velin, Mas du Taureau, le 8 octobre.
Et puis sinon, pour les nouvelles de Lyon, il va y avoir une nouvelle nuit debout. Et cette nuit debout, normalement, devrait se passer le 7 octobre, si mes souvenirs sont bons. Et on invite, en fait, tous les curieux et puis toutes les personnes qui sont déjà allées à aller faire un tour là-bas, parce que de toute manière, quoi qu'on en dise, c'est un lieu de débat, c'est un lieu où on peut discuter, se voir, et puis il y a des gens là-bas qui apprennent à faire politique, on pourrait dire. Donc, pourquoi pas
et boire aller un faire coup un aussi. Tour.
Donc maintenant, moi, je vais vous parler un peu de la Hongrie. Donc, il y a en ce moment un référendum contre les réfugiés, donc du gouvernement, et une répartie d'un parti satirique que j'aime beaucoup, donc je vais vous en parler. Il se trouve que j'ai passé mes vacances en Hongrie, vous êtes bien contents de le savoir. Et donc j'ai pris l'avion, je suis arrivée, et en sortant de l'aéroport, au lieu de me retrouver devant les pancartes publicitaires habituelles pour parfums et autres, je me suis retrouvée devant une énorme pancarte bleu foncé sur laquelle je pouvais lire en hongrois « Le savez-vous ? L'attentat de Paris a été commis par des immigrés. Référendum 2 octobre 2016. » Donc bon. D'accord, je prends connaissance de cette pancarte, puis je rentre chez moi, j'arrive chez ma famille, et j'entends sur la télé allumée...
A bevándorlási válság kezdete óta vészesen megnőtt a terrortámadások száma Európában. Itt is megtörténhet. Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét. Szavazzunk nemmel október 2-án.
Donc voilà, je vous traduis quand même. Hein. Depuis le début de la crise des migrants, les attaques terroristes ont augmenté de manière critique en Europe. Cela peut arriver ici aussi. Ne risquons pas le futur de la Hongrie. Votons non le 2 octobre. Donc bon, je commence sérieusement à me poser des questions sur ce qui se passe. Et je me suis renseignée. Donc la pancarte que j'ai vue et le clip entendu font partie de la campagne du gouvernement hongrois qui appelle à voter lors du référendum qu'il organise le 2 octobre. C'est un référendum qui est organisé pour contester l'accueil de demandeurs d'asile en Hongrie ou la politique des quotas comme Viktor Orban, le premier ministre hongrois, aime l'appeler. La question posée au référendum sera la suivante. Approuvez-vous que l'Union européenne puisse ordonner l'installation en Hongrie à titre obligatoire de ressortissants non hongrois sans l'accord de l'Assemblée nationale ? Enfin, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais c'est aussi alambiqué dans le référendum. Donc la campagne du gouvernement hongrois se décline en pancartes géantes, mais en publicité, dans les abribus, en messages radio, en clips télévisés et en publicité sponsorisée sur Internet. Donc on est sur des phrases qui jouent sur la xénophobie, qui sont souvent plus ou moins fausses, et qui en tout cas ne prennent jamais la peine de s'appuyer sur des preuves empiriques. Pourquoi faire d'ailleurs ? Le parti au gouvernement de Viktor Orban a tout à fait réussi à ramener la question des réfugiés tout en haut de l'agenda politique. Donc on va vous faire une petite lecture des phrases qu'on peut lire sur les pancartes visibles un peu partout.
Le saviez-vous ? Depuis le début de la crise migratoire, plus de 300 personnes sont mortes dans des attaques terroristes en Europe. Référendum du 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ? L'attentat de Paris a été commis par des immigrés. Référendum 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ? Depuis le début de la crise migratoire, le nombre de harcèlements contre les femmes en Europe a considérablement augmenté. Référendum le 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ? Bruxelles veut installer en Hongrie l'équivalent d'une ville d'immigrants illégaux. Référendum 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ? L'an dernier, 1,5 million d'émigrants clandestins sont arrivés en Europe. Référendum 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ? Près d'un million de migrants veulent venir en Europe à partir de la seule Libye. Référendum du 2 octobre 2016.
Le saviez-vous ?
Eh ben non. C'est pas vraiment tout.
On va attendre un peu.
Moi, je vais poser des questions à Roxane, du coup, parce que comme elle est allée en Hongrie, et ben, y a plein de choses qu'elle pourrait nous raconter sur comment ça se passe, etc., par rapport aux immigrants. Alors, première question, qu'est-ce que c'est la politique des quotas à laquelle fait référence ce référendum ?
Oui, donc en fait, c'est un problème de relocalisation. C'est-à-dire que la Commission européenne va répartir 160 000 demandeurs d'asile en Union européenne. Donc attention, c'est environ 2300 en Hongrie, donc sur un pays qui fait 10 millions, c'est pas énorme, voire moins encore, dépendant des sources que j'ai pu trouver. En plus, répartir des demandeurs d'asile, ça veut pas dire que leurs demandes seront acceptées. Donc en gros, c'est des gens, on sait même pas s'ils vont rester. Donc c'est une manière de répartir, c'est une manière d'essayer de répartir la tâche administrative entre les pays d'Europe, et c'est normalement pensé pour éviter que les pays à la frontière de l'Europe ne se retrouvent à gérer trop de choses administratives. En plus, il se trouve qu'une majorité des réfugiés ne veulent pas rester en Hongrie. On se demande bien pourquoi. Et ils ont plus pour but d'aller en Allemagne, par exemple. Depuis 2015, depuis début 2016, il y a eu 25 000 demandes d'asile en Hongrie et 250 acceptées.
Et comment réagissent les autres partis politiques de Hongrie ?
Alors, ça dépend. Les partis proches du pouvoir, c'est-à-dire en gros le parti d'Orban Viktor, le Fidesz, et le parti chrétien-démocrate, le parti d'extrême droite, le Jobbik, ils appellent à voter non au référendum, c'est-à-dire pour mener une politique anti-demandeur d'asile. Au final, très peu appellent à voter oui. Et la plupart des partis d'opposition, à peu près de gauche, n'appellent pas ou appellent à ne pas voter ou appellent à boycotter le scrutin, en fait. Dans la société civile, il y a assez peu d'associations visibles. Et au final, la plus grosse opposition visible, c'est le parti hongrois du chien à deux queues, qui est un parti... Ça s'appelle vraiment comme ça, qui est un parti à la base parodique, mais qui est de plus en plus présent dans la vie politique hongroise.
Et du coup, comment est-ce qu'un parti un peu satirique peut influencer la vie politique ?
Eh bien, déjà, il s'est créé en 2006 lors des élections législatives, donc ça a été le premier moment où il a commencé à faire des campagnes. Donc à la base, c'était des gens amateurs de street art, donc ils ont commencé à faire des graffitis un peu partout, à détourner les campagnes. Et ils ont fait une fausse campagne politique, financée de manière participative. Donc ils avaient un programme qui prévoyait vie éternelle, paix dans le monde, bière gratuite et impôts moins élevés.
Oh.
Voilà, sympa. Depuis, ils détournent des campagnes publicitaires et taguent des messages marrants, mais ils réagissent aussi assez souvent à l'actualité politique. Donc pour le référendum cette année, ils ont fait une contre-campagne sur la base du « question con, réponse con » en appelant à voter au référendum, mais à voter non valide. C'est-à-dire que, par exemple, on coche plusieurs cases ou on fait des petits dessins pour que le vote ne soit pas considéré. C'est une manière de montrer son désaccord et en même temps, s'il n'y a pas assez de personnes qui viennent voter au référendum de manière valable, eh bien, s'il y a moins de 50% des suffrages, le référendum est considéré comme caduque, ça ne marche pas. Donc ils font campagne en collant eux aussi des affiches, les plus absurdes les unes que les autres, et se terminant toutes par « question con, réponse con, fait que ton vote soit non valide ».
Le saviez-vous ? 1. Question con, réponse con. Fait que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous ? Un Hongrois moyen voit plus d'extraterrestres dans sa vie que de réfugiés. Question con, réponse con. Fait que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous ?
Ah pardon.
Le saviez-vous, en Syrie c'est la guerre. Question conne, réponse conne, faites que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous? Non. Question con, réponse con, faites que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous? La plupart des délits de corruption sont commis par des hommes politiques. Question con, réponse con, faites que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous? De la Hongrie, 1 million de personnes veut venir en Europe. Question con, réponse con, fait que ton vote soit non valide.
Le saviez-vous? Depuis le début de la crise migratoire, il y a plus d'affiches bleues en Hongrie que de réfugiés.
Le saviez-vous? Si on répète quelque chose suffisamment de fois, cela devient vrai. Le saviez-vous? Si on répète quelque chose suffisamment de fois, cela devient vrai. Le saviez-vous? Si on répète quelque chose suffisamment de fois, cela devient vrai. Question con, réponse con, fait que ton vote soit non valide.
Je sais pas. Qui s'en alla pour trouver l'Eldorado? Comme autrefois princes et rois s'en allaient pour les croisades, il a laissé tout son passé pour trouver l'Eldorado. Crinière au vent, le mort aux dents, enfin le cavalcade. Que cherchait-il? Versé d'exil, là-bas, en Eldorado.
Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne.
Mais oui, c'est clair.
Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. 51 millions de réfugiés dans le monde, on en est là. C'est un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils fuient la guerre ou la misère, ils sont prêts à tout pour venir chez nous.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarlatata.
Pour comprendre, nous nous sommes intéressés à l'un des naufrages les plus meurtriers jamais survenus en Méditerranée. C'était début septembre, ils étaient 450 à bord.
Et le spectacle continue.
Crise des migrants, le retour des frontières, c'est le titre de cette émission. L'Europe de l'espace Schengen n'est plus.
Depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc...
Alors, va-t-il falloir de nouveau s'habituer au contrôle douanier?
Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper.
Ça va, t'énerve pas? Je m'en vais? Fasciste.
Ce qui était intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voyait des migrants qui n'étaient pas au courant, au fond, que les frontières étaient fermées.
On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester.
Ici, il y a au moins 7000 migrants sur le campement de la Lande. Cette situation n'est pas acceptable. Dès lors, nos objectifs sont clairs. Garantir la sécurité des Calaisiens.
C'est cela, oui.
Maintenir l'ordre public.
C'est cela, oui.
Et assurer aux migrants, aux réfugiés, des conditions dignes.
C'est cela, oui.
Parce que nous sommes la France. Enfin, nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande.
Il est idiot, cet agent.
Ah non ! Mais c'est le président de la République ! À la station, il faut le nettoyer.
Que je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'immigration et de l'identité nationale, on a fait des réfugiés presque des coupables de droit commun.
Nous ne voyons pas d'autres explications.
Salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le...
Oh, ça fait à peu près 3 millions d'années que l'immigration, c'est la vie. Donc du coup, on a vraiment un grand plaisir à accueillir le collectif des étudiants étrangers de Lyon, sans papier, et vraiment solidaire. Donc si vous pouviez vous présenter.
Oui, alors merci. On fait partie du collectif d'étudiants étrangers de Lyon. Ce collectif existe depuis juin 2015. Un peu dans la continuité du RUSF qui existait sur Lyon. Il y avait des militants qui étaient dans cette autre organisation. Donc depuis l'année dernière, on a mené différentes batailles. Tout d'abord des batailles pour l'inscription des sans-papiers et demandeurs d'asile à l'université. Tout d'abord, il y a un travail d'information à faire parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers qui ne savent pas qu'ils ont le droit de s'inscrire à l'université. Et d'un autre côté, il y a un travail pour mettre la pression aux universités pour qu'ils puissent inscrire des sans-papiers. En fait, il y a certaines universités qui demandent des titres de séjour alors que personne ne leur demande de faire ça. Et c'est des motifs de refus des étudiants étrangers. Donc on a commencé à faire ça depuis l'année dernière. On a dû mener une grosse bataille à Lyon 2, tout d'abord pour inscrire une trentaine de camarades. On a réussi, ça a été victorieux. On a fait des mobilisations. Ensuite, on a pu aller dans d'autres universités, à Lyon 1, à Lyon 3. Et on se rend compte que c'est en mettant la pression collectivement que ça peut marcher. Donc cette année aussi, on a fait un dépôt collectif à la préfecture. Donc on se dit qu'il y a différentes camarades sans papier qui ont voulu faire des demandes de régularisation auprès de la préfecture. Et on a décidé de faire une démarche collective pour ça. Donc on a fait une manifestation. La réponse de la préfecture a été de donner des OQTF. Des obligations de quitter le territoire français. Ce qui, en fait, nous a confortés dans l'idée qu'il faut qu'on augmente notre rapport de force et qu'on continue à se mobiliser. Donc, on compte cette année riposter par rapport à cette situation et voir si on fait d'autres dépôts collectifs. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment se mobiliser sur la question de son papier, pas uniquement les étudiants, mais les sans-papiers en général, on continue à se mobiliser. Donc voilà, si jamais vous voulez nous contacter et avoir plus d'informations, on a une page Facebook qui est le collectif des étudiants étrangers de Lyon sans-papiers et solidaires. Notre mail collectif.étudiants.étrangers.lyon@riseup.net. Notre blog RUSF Lyon et le téléphone 07 68 25 59 86.
Pour en parler un petit peu de la situation auxquelles les étudiants sans papier sont confrontés dans leur vie quotidienne. Donc, il y a deux semaines, plusieurs de nos camarades s'est fait arrêter par la police aux frontières. Et grâce à la mobilisation de tous les étudiants, les enseignants et les personnels de l'université, nos camarades ont été relâchés. Et la semaine dernière, l'un de nos camarades qui est ici présent se fait arrêter et ramener au centre d'arrestation. Mais aussi grâce à la mobilisation de tous les étudiants et les personnels, mais aussi des personnes venant des différents syndicats, notamment Solidaires, notre camarade est relâché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ici avec nous, il va pouvoir en parler et je lui donne la parole.
Merci Mohamed. Donc
Moi, c'est Rabi, j'ai fait partie aussi du collectif. Donc, il y a de cela 6 mois que j'ai rejoint le collectif. Bon, c'est vrai que c'est dur, mais nous pouvons quand même témoigner que c'est quelque chose ensemble. Dans le collectif, on cherche quand même à donner des solutions. Déjà, la situation, la plupart sont des jeunes, la situation des jeunes, ils sont étrangers, il y a problème d'intégration, ils ne savent pas quoi faire, ça ce sont les vrais problèmes. Et la plupart de ces jeunes vivent dans l'isolement. Donc les collectifs c'est aussi un cadre d'accueil. Un cadre d'échange, d'échange des idées, c'est ça ce qui fait que la plupart des jeunes se retrouvent un peu dans ces mouvements-là. C'est vrai qu'on était arrêtés à la gare de Perrache par la gendarmerie. Finalement, il fallait montrer tout ce qui était nécessaire comme papier. Cela n'était pas le cas. Donc, du coup, on était directement transféré au centre de rétention à Saint-Exupéry pendant 3 jours. Donc, mais du moins, grâce au collectif, parce que j'étais déjà prêt à préparer mes cours et finalement on t'a dit voilà tu dois rentrer dans ton pays. Donc on vient en France et la politique française connaît au moins bien ce qui se passe la plupart des jeunes, mais il faut aussi dire que pendant les 3 jours qu'on a passé au centre de rétention, on a quand même eu une autre vision de la France ou une autre vision du monde, si je pourrais dire, parce qu'on a pas mal parlé avec des gens qu'on a trouvés là-bas, la plupart des jeunes, c'est vrai, arrêtés, c'est vrai, la plupart sans papier, c'est vrai, mais les vrais problèmes qu'on doit encore poser la question plus loin, c'est comment aider ou comment accompagner ces jeunes. La plupart sont des jeunes qui se retrouvent dans des centres de rétention. Ce n'est pas de fermer quelqu'un ou ce n'est pas de refouler quelqu'un. Je ne sais pas, en tout cas, le détail des raisons de leur arrestation. Mais je me dis aujourd'hui, si nous crions par rapport au djihadisme, nous crions par rapport... Voilà, donc ce sont j'ai dit, c'est, si on ne fait pas attention à des liens comme ça, c'est facile. Et je confirme ça, j'ai souvent écouté dans des radios, par exemple, où on parle de la plupart des radicalisations, c'est fait au niveau des centres de rétention. En tout cas, je pourrais confirmer ça. Je pourrais confirmer ça parce que je vis, c'était la haine, beaucoup de choses. Donc voilà, donc grâce au collectif, grâce aux manifs, aux messages lancés, et voilà, donc nous étions aussi libérés. C'est vrai qu'on est passé par la justice, au tribunal administratif. Donc voilà, on a étudié les dossiers après. Et donc, ça a été une victoire de lutter ensemble. Donc, voilà.
Ouais, ce qu'on peut peut-être parler maintenant aussi, c'est... du coup, c'est la lutte que mène le collectif depuis un peu plus d'un an maintenant. Bah, du coup, principalement autour des étudiants sans papier et demandeurs d'asile, mais elle appelle d'autres luttes, quoi, parce qu'on est dans un contexte où, bah, de fait, la répression elle s'intensifie. L'arsenal législatif et coercitif de l'État est toujours plus important, quoi. Il y a très prochainement, en fait, il y a une nouvelle loi relative aux droits des étrangers qui doit entrer en vigueur, c'est-à-dire elle doit entrer en vigueur le 1er novembre. Du coup, on peut peut-être faire un petit aperçu rapide de cette loi, qui est la loi du 7 mars 2016, en fait, qui était précédée, d'ailleurs, je vais juste faire un point assez court là-dessus, précédée par une nouvelle réforme du droit d'asile. Bon, en gros, le point commun de toutes ces réformes, concrètement, c'est d'accélérer au maximum les procédures, quoi, pour les étrangers. Donc, ça a été vendu un petit peu comme ça, comme étant une réforme de gauche, entre guillemets. En fait, l'objectif de l'accélération des procédures, bien souvent, c'est tout simplement d'éviter que les étrangers, en fait, qui arrivent, qui demandent l'asile ou les sans-papiers, quoi, qui arrivent et qui puissent s'installer finalement sur le territoire et créer des liens de solidarité. Le but, c'est au maximum, en fait, de pouvoir confiner dans des espaces qui sont contrôlés par l'État, quoi, afin de, à l'issue de la procédure, pouvoir expulser le plus rapidement possible et la manière la moins visible possible, quoi. Donc, le but, c'est vraiment d'éviter les contestations de cette politique. Alors, ensuite, sur la loi du 7 mars, concrètement, elle prévoit un certain nombre de choses. Donc, d'une part, elle prévoit que l'assignation à résidence, comme disait Cazeneuve, hein, l'été dernier, qu'elle va devenir la mesure de droit commun en matière de privation de liberté des étrangers. Et Cazeneuve, il avait déjà énoncé l'été dernier que les places en centre de rétention, elles devaient être utilisées à plein. Du coup, Rabhi, qui était enfermé en centre de rétention ces tout derniers jours, a pu nous confirmer que le centre de rétention était de fait plein, quoi.
Oui, déjà dans ma cellule, on était déjà à 3, donc tu vois. donc on était à 3. Si j'ai quand même une bonne mémoire, dans l'ensemble. C'était une 72 personnes déjà, donc, et chaque jour on voyait quand même des gens. J'aurais un peu la difficulté de dire, mais du moins c'est une cellule qui contenait au moins 4 personnes, mais déjà à 3 c'était beaucoup, donc l'idéal ce n'est pas de trop fermer les gens. Donc je te laisse, Vincent, de continuer.
Concernant un autre aspect, des aspects qui finalement face au nouveau pouvoir qui sont donnés aux préfets, ont rencontré finalement assez peu de mobilisation, c'est la création de ce qu'on appelle un droit de communication au préfet. Et donc le préfet aura désormais le pouvoir de demander, sans que s'y oppose le secret professionnel, donc ça c'est le terme de la loi, des informations sur toutes les personnes qui demandent ou qui possèdent un titre de séjour auprès d'un ensemble d'institutions, parmi lesquelles on peut compter les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, donc les collèges, les lycées, les écoles, quoi, les universités, les établissements de santé, les banques, les organismes financiers, Pôle emploi, la sécurité sociale, etc., quoi. Donc le but, c'est vraiment que le préfet ait ce pouvoir-là d'obtenir des informations et en fait de se servir de toutes ces informations pour trouver un motif de refus ou de refus d'une demande de titre de séjour ou un motif de retrait. Parce que ce qu'il faut se rendre compte également, c'est que avec cette nouvelle loi également, c'est tous les étrangers, même en situation régulière, qui sont de fait visés, parce qu'il y a un article de cette loi qui dit qu'à tout moment l'étranger qui dispose d'un titre de séjour doit continuer de satisfaire aux conditions fixées par la délivrance de cette carte. Donc en fait, à tout moment, donc le préfet pourra convoquer en fait un étranger qui est titulaire d'un titre, peut avoir une carte de 10 ans. Et au bout de 5 ans, on peut le convoquer, vérifier que les conditions qui ont justifié son attribution sont toujours remplies. Si c'est pas le cas, donc il est possible que la préfecture peut retirer un titre de séjour. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est tous les étrangers qui se trouvent de fait aujourd'hui en sursis, quoi. Donc il y a une vraie nécessité de s'organiser, quoi, largement, quoi, et dénoncer cette chasse et cette traque, quoi, où on cherche un petit peu à désigner des ennemis intérieurs. Et il faut, nous en tout cas, le collectif, on lutte avec les étudiants, quoi, mais le but, c'est d'arriver à s'organiser, avec tous les travailleurs sans papier, tous les sans papier de manière générale, quoi. On a de fait, les sans papier sont aussi sur le marché du travail, ils subissent une situation d'extrême précarité, de surexploitation, quoi, de fait, quoi. Les patrons profitent de cette situation où les gens ont un peu ont, bah, en tout cas on peut de droit quoi, en tout cas on peur de les réclamer quoi. Mmh. Et donc ils travaillent la plupart du temps dans des secteurs voilà où c'est le plus compliqué, donc c'est dans le bâtiment généralement dans le nettoyage, on sait sur les marchés, enfin vraiment ou en cuisine dans les restaurations, enfin vraiment sur des lieux où de fait c'est des situations d'exploitation qui sont les plus intenses quoi. Et encore pour faire un bref point sur la dernière loi, c'est aussi elle passe à de 1 mois à 15 jours le délai pour contester une obligation de quitter le territoire. Mmh. Donc en fait c'est extrêmement court pour ceux qui ont pu connaître un peu cette procédure, le temps de contacter des avocats. Donc en fait ça va conduire à ce qu'un maximum de gens puissent même plus contester des décisions et vont de fait se retrouver en situation bon déjà ils ont une situation irrégulière mais qu'ils peuvent même plus contester quoi. Donc de fait leur expulsion sera exécutable quoi. Ça le but c'est ça, c'est vraiment d'intensifier les expulsions. Et un nouvel aspect qui est encore très important de cette loi, c'est ce qu'on appelle les interdictions de retour sur le territoire français. Donc si un étranger qui a déjà reçu une OQTF reçoit une deuxième OQTF, là elle est assortie automatiquement d'une IRTF, donc une interdiction de retour sur le territoire français. Et donc la difficulté de ça, c'est que c'est contestable uniquement en fait hors du territoire national. Et qu'en plus c'est valable, donc c'est interdiction du territoire français, mais en fait c'est interdiction du territoire Schengen, quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc là, il y a vraiment, enfin bon, on est vraiment dans une situation où il y a une nécessité de s'organiser, quoi, largement un peu de partout et de créer des liens au maximum et de créer l'unité, quoi.
Moi je suis à Nice, je fais partie de collectif depuis décembre, je vais faire juste un petit témoignage. Et grâce au collectif qui se compose par des étrangers et des Français notamment, j'ai l'autorisation et je me suis inscrit à la fac. Je le remercie tous les jours, tous les camarades du collectif pour cette année. Et par contre, il reste toujours le problème du titre de séjour qui impose un problème, et surtout au niveau du travail pour financer les études, pour financer pour le loyer, pour tout ça. Et je pense qu'on a un problème là maintenant au niveau du CROUS, si je laisse mes camarades continuer à propos de ça.
Mohamed. Et du coup, face à la situation précaire et d'insécurité que les étudiants sans papier en général et les demandeurs d'asile en particulier sont confrontés au quotidien, nous appelons tous les personnes, quelle que soit leur nationalité, leur origine sociale ou religieuse, à se joindre à nous pour mener le combat et pour rendre ce monde plus juste. Nous faisons appel aussi aux étudiants, aux nos étudiants, aux travailleurs et à tout le monde pour se joindre à nous et de venir mener le combat, parce que le collectif englobe des étudiants français, des étudiants étrangers avec papier, des étudiants sans papier, et nous appelons tout le monde à venir avec
numéros,
nous.
Mohamed.
Et je vais vous laisser le numéro du collectif, c'est le 07 68 25 59 86.
Et je répète, 06 68 25 59 86. Il y a un contact email aussi, collectif.etudiant.etranger.lyon@raisa.net.
Voilà, donc on est à votre disposition. Voilà. Ne restez pas isolés. Donc, le collectif est là ensemble et nous vaincrons.
On nous vaincrons.
Eh bien, on est super content de vous avoir eu avec nous dans l'émission du Canu Info.
Merci à vous.
Merci.
L'argent français, bosser, pas facile, gagner l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français, bosser, pas facile, gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent.
français, bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.
Et voici maintenant l'agenda du Canu Info du lundi.
Oui, donc jeudi 27 septembre, conférence sur la question des réfugiés, justement, les réfugiés palestiniens au Liban. Donc c'est une conférence de Souhel El Natour à la Bourse du Travail au troisième étage à 18h30.
Ensuite, le 29, à partir de 19h au 40 rue Burdeau, le local de la CNT, il y aura une rencontre et discussion sur l'absurdité du travail social animée par le collectif PUS, qui sont les professionnels de l'urgence sociale.
Le mardi 30 septembre, il y aura un apéro, ça c'est cool, de rentrée, donc un apéro de rentrée à l'atelier du Canular, 91 rue Montesquieu à 18h30.
On parle bien de vendredi, par contre, pas de mardi. Eh oui.
On parle bien de vendredi 30 septembre. Il y en a qui ont déjà pris l'apéro, excusez-moi.
Alors, samedi, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Ça bouge. Donc, il y a la ZAD dans le nord. Et ici, on a notre propre ZAD à Roibon. Donc, il y a un projet, une petite balade découverte. Donc, qui va vous permettre de visiter en fait une balade naturaliste autour du site du Chambaran, donc qui est donc le site en fait du futur, enfin dont on espère jamais qu'il n'arrivera jamais par de Roibon. Donc, cette visite démarrera à 13h30 et le départ se situe sur le parking de l'étang de Dionnet.
Et toujours samedi, on a l'apéro de rentrée de la Griffe à 19h, donc la Griffe librairie rue Sébastien Griffe.
Et bon, on va passer un peu plus loin, mais le 4 octobre, en fait, à la Lutine, il y a un super truc. En fait, il y a le collectif des rédacteurs de Rébellion qui se réunit. Donc, on vous invite toutes et tous à venir si vous êtes intéressés par écrire des articles à plusieurs, si ça vous intéresse de faire l'actualité, de comprendre comment ça fonctionne, de donner des coups de main. Enfin, tout est possible. Vous ferez ce que vous ferez. Donc, ça, c'est cool. Et donc, c'est à 19h, le 4 octobre à la Lutine.
Mercredi, Mas du Taureau, aux alentours de 10h également, il y a un rassemblement plus ou moins informel pour coller, differ, informer. Et le 8 octobre, c'est un peu loin aussi, on en reparlera, mais le 8 octobre, il y a donc la journée lyonnaise de soutien aux ZAD qui se tiendra à Vaux-en-Velin.
Et voilà, c'était la fin du Canu Info. On a été très contents de vous voir pour la combien, là ?